Chez Land Rover, nous avons tant d'aventures à raconter. Nous avons sillonné de nombreux pays. Nous avons participé à des films d'action, tout en partageant nos victoires. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un nouveau chapitre avec nos SUV hybrides FlexFuel E85. Choisissez le super éthanol E85 et réalisez des économies avec un carburant à 66 centimes le litre. Rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover pour bénéficier de conditions exceptionnelles sur nos modèles hybrides.
Land Rover.
Prix de vente moyen au 5 mars.
Alors, on va essayer de rétablir les choses. On n'est pas samedi, mais on est dimanche. Et j'ai beau à essayer d'avoir une voix assez grave, je ne suis pas Gérard Courtois. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur. Nous sommes en direct de l'espace Cardin à Paris grâce aux équipes conjointes de France Culture et du Théâtre de la Ville. Des Bonnes Choses qui vont célébrer aujourd'hui un sujet de fascination scientifique, artistique et gastronomique. Octopus vulgaris. En 2018, lors de la première édition du Marseille Octopus World Wild, l'architecte Rudy Ricciotti, qui en était alors le président d'honneur, a déclaré « Soyez sobre et économe avec le poulpe. Il mérite notre courtoisie et attention. Servez-vous peu, même très peu. Le gaspillage ne sera pas accepté. Le poulpe est l'ami du diable. Il faudra s'en souvenir. »
Tout le monde est épouvanté sur les plages quand vous conseillez d'aller chercher des poulpes ou des pieuvres en Méditerranée. Il est possible qu'ils aient d'abord une petite répulsion.
Est-ce vrai que les ventouses des tentacules font autant de dégâts que les griffes d'un tigre ?
Comparé aux ventouses des tentacules, les griffes ne sont rien, Monsieur Turner.
Paul Le Poulpe, le célèbre céphalopode médium qui prédisait, souvenez-vous avec une grande précision, les résultats du mondial de foot l'an dernier, va recevoir un hommage posthume à l'aquarium d'Oberhausen.
Je ne pourrais même pas supporter l'idée que je puisse vivre sans un poulpe sur la tête.
C'est extraordinaire un poulpe. Un poulpe qui vous regarde, parce qu'il vous regarde, ils ont des yeux extraordinaires.
C'est un animal très affectueux, on s'y attache terriblement.
Là, tu voyages vraiment en Méditerranée. T'as le poulpe qui est pêché au port de Nice. Voilà, là, c'est vraiment une salade méditerranée à 200%.
Moi, ça m'a donné envie de manger beaucoup de poulpe, là. Donc les assiettes, tout à l'heure, elles vont pas faire long feu.
Et deux invités avec nous aujourd'hui sur la scène de l'espace Cardin. Jean-Pierre Montanet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Grand reporter, poulpe addict. On verra ce que ça veut dire dans votre bouche tout à l'heure. Vous êtes l'auteur d'un livre de référence sur le poulpe, Poulpe 90 recettes, qui est apparu chez Hachette Pratique. Aujourd'hui, il faut le signaler, vous êtes rédacteur en chef et co-animateur d'une émission qui a pour titre Politique à table et qui est diffusée sur LCP.
Exactement.
Avec nous également, et je le remercie infiniment d'avoir fait le voyage depuis ce matin très très tôt, Eric Guérin, bonjour.
Bonjour.
Chef étoilé de la Mare aux Oiseaux qui est à Saint-Joachim en Loire-Atlantique. Vous avez longtemps été un grand amateur de poulpe, mais vous ne l'êtes plus.
Aussi, oui.
Un addict, mais vous ne l'êtes plus, vous nous expliquerez pourquoi. On a entendu dans ce montage réalisé par les soins de notre réalisateur Jean-Christophe Francis à quel point le poulpe oscille en permanence entre attraction et répulsion. Ça pourrait être d'ailleurs le fil rouge de cette émission. Est-ce que vous pourriez, Jean-Pierre Montanet, nous dresser une petite carte d'identité du poulpe pour expliquer pourquoi ce qu'on appelle un céphalopode aussi autant entre l'attraction et la répulsion?
Céphalopode, ça veut dire vraiment littéralement tête sur les pattes. Alors l'octopus, comme le montre sa racine, a 8 tentacules, bien précisé qu'un tentacule et non pas une tentacule, comme on le dit souvent. Et puis il y a ceux qui ont 10 tentacules, ce sont les seiches et les calamars qui sont en fait les cousins du poulpe. Le poulpe est un mollusque, hein, c'est aussi un cousin des escargots. Il faut bien savoir que lorsque les dinosaures apparaissent sur Terre, les poulpes, ces mollusques, ces céphalopodes, ont des coquilles pour se protéger. Puis ensuite, avec la mutation des espèces, l'apparition des poissons, ces coquilles vont s'internaliser. Vous voyez cette os de sèche qu'on donne aux perruches qui permet à la sèche de flotter, eh bien, c'était une ancienne coquille qui s'est externalisée. On a la plume aussi du calamar, quand on enlève un calamar, qui est la trace de son ancienne coquille. Et le poulpe, lui, s'est débarrassé de toute coquille. Il est devenu un animal très fragile, mais il en a tiré aussi des qualités, parce qu'il est capable, avec sa chair, là, cette espèce de chair d'insecte, hein, qui est très gélatineuse, bien de s'infiltrer dans le moindre interstice. Hein. On dit que si ça a la taille de son œil et de son globe oculaire, il peut passer dans cet interstice pour s'échapper.
Poulpe et pieuvre, c'est pareil ?
Poulpe et pieuvre, c'est pareil, sauf que le pieuvre, c'est un peu plus péjoratif. Hein. C'est Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer, qui a remis au goût du jour ce mot, parce qu'il voulait vraiment diaboliser le poulpe. En Italie, on s'y dit la pieuvre, souvent, mais c'est effectivement le même animal.
Éric Guérin, ce qui explique que cet animal repousse autant qu'il fascine, il y a beaucoup de choses, mais en particulier justement parce que dans notre imaginaire, il est quand même lié au monstre marin. Et puis il a quand même cette texture caoutchouteuse, visqueuse, gluante, qui a tendance à rebuter au premier abord.
Ouais, je pense qu'il est victime en fait de tous les fantasmes que l'homme a produit autour de lui. Et bon, on sait bien qu'il a coulé le Nautilus. Et en plus, le côté profondeur, la lumière, il est loin de la lumière, il est au fond de l'eau, il surgit, c'est un peu le monstre du placard, le poulpe. Et ce côté gélatineux vient nous engloutir, vient nous enrober de quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on apprécie mal. Si d'ailleurs en cuisine, c'est un peu la même chose, s'il est mal cuisiné, on peut très vite passer à côté des bonnes choses.
Bon alors, tous les deux, vous avez cherché à réhabiliter le poulpe, en tous les cas, vous l'avez fait, Jean-Pierre Montanet, dans ce livre référence dont je parlais tout à l'heure, Le poulpe en 90 recettes. Parlez-nous de votre rapport personnel au poulpe, parce que vous, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas du tout rebuté par le poulpe. Les poulpes addicts, vous l'avez dit vous-même. Alors ça veut dire quoi ? Comment est née votre passion du poulpe, Jean-Pierre Montanet ?
Mais pour aimer le poulpe, pour apprécier le poulpe en cuisine, il faut aussi l'aimer, il faut pouvoir le tripoter, le caresser, le laver, le faire dégorger avec du gros sel. Mais écoutez, c'est tout simple, moi j'étais grand reporter, je me baladais un peu partout, mais j'aimais ce travail de grand reporter, mais j'étais aussi profondément gourmand. Et je profitais aussi de chaque escale dans des pays qu'on ne visite pas forcément quand on est touriste, hein, le Pakistan, la Bosnie, etc., c'est pas là où on va en vacances, pour aller dénicher des restaurants, des bouis-bouis, des plats typiques, des petites recettes. Et à Zagreb, sur la route de Sarajevo, au début des années 90, 93, 94, je suis tombé sur une salade de poulpe dans un hôtel de Zagreb. Et là, j'ai découvert ce plat et je me suis dit, c'est pas possible, comment j'ai pu échapper à une salade de poulpe alors que j'ai déjà près de 30 ans. Et ensuite, je suis allé voir le poulpe en Sardaigne, en Espagne, et puis j'ai adoré, j'ai commencé à en acheter, voir que c'était compliqué d'acheter à ce moment-là du poulpe à Paris. On en trouvait très peu dans les poissonneries. Et puis, j'ai proposé ce livre à Hachette et ça s'est fait, ça s'est concrétisé puisque déjà, auprès de mes amis, on me surnommait Monsieur Poulpe. Je me suis dit, si un jour je vois un livre sur le poulpe dans les librairies, je serai furax. Donc, dépêche-toi de le faire.
Alors que vous, Éric Guérin, vous avez commencé il y a peut-être, à peu près à la même date, il y a à peu près une trentaine d'années, à particulièrement aimer le poulpe, à le cuisiner, c'est même devenu un de vos plats signatures, et puis vous avez arrêté.
Alors moi, j'ai d'abord commencé par un rapport très proche avec la nature, par le pêcher, très jeune, du côté de Biarritz, et cet animal sous l'eau me fascinait, et puis petit à petit, j'ai aussi voyagé. Et c'est vrai que je l'ai très vite découvert à table, puisque autour de l'Afrique, de la Méditerranée, j'ai eu la chance de le déguster assez rapidement en salade, mais aussi grillé. Et c'est devenu presque une fascination. C'est-à-dire que j'étais capable de manger entrée poulpe, plat poulpe.
Dessert
je prenais
poulpe.
Pas de dessert, mais je prenais un
poulpe
à la place.
Il y a une bombe au chocolat dans le livre que vous avez ouvert sous les yeux.
J'étais capable de manger du poulpe pendant 15 jours. Et je faisais presque même une espèce de journal du poulpe. C'est-à-dire que de l'Italie à la Grèce, au Maroc, je connaissais les poulpes et je savais où il fallait manger des bons poulpes. Et très vite, je l'ai amené dans ma cuisine, en Brière, donc dans un pays hors poulpe, hein, puisque moi je vis dans les marais, sur une petite île. Et c'est vrai que la Bretagne n'est pas non plus le pays du poulpe. Et moi je l'ai amené sur ma table il y a une bonne vingtaine d'années, c'est devenu un de mes produits fétiches, alors qu'à l'époque, on va dire que la haute gastronomie boudait un petit peu le poulpe.
Oui, le poulpe est revenu en odeur de sainteté il y a quelques années. Il est devenu même très tendance aujourd'hui, Jean-Pierre Montanet.
Exactement, à la fin des années 90, effectivement, avant, on trouvait dans quelques rares Italiens des salades de poulpe, des carpaccio de poulpe, mais il y avait une réticence des consommateurs français, à part dans le sud, hein, où il y a vraiment tout le littoral, et on est amateur de poulpe, mais dans le reste du pays ou à Paris. Moi, j'y vois, parce qu'on m'a souvent posé la question, pourquoi le poulpe ? Moi, je pense que ça a aussi coïncidé avec les réseaux sociaux et Instagram, parce que c'est hyper photogénique. Un poulpe, un tentacule de poulpe en cuisine, il se durcit, il rosit, vous pouvez le dresser, vous pouvez l'entrecroiser, etc. Et effectivement, sur les photos Instagram, c'est devenu très à la mode. Et puis, des chefs aussi, avec l'arrivée de chefs italiens, de chefs grecs qui voulaient aussi apporter leur cuisine, on a vu l'émergence, après les salades, de poulpe snackées. C'est-à-dire qu'on les fait cuire au court-bouillon, puis ensuite on les met sur une plancha pour leur donner une petite couleur caramélisée, etc. Ce qui n'est pas encore arrivé dans la cuisine française, mais le chef peut-être me contredira, c'est ce qu'on appelle encore les daubes de poulpe. Moi que j'aime beaucoup, qu'on mange beaucoup en Grèce, ou le poulpe humido en Espagne, ce sont vraiment des poulpes qu'on fait cuisiner comme de la daube, c'est-à-dire avec du vin blanc, du vin rouge. Dans mon livre, il y a une très bonne recette, par exemple, qui m'a été inspirée par la Grèce. C'est un poulpe à l'orange et à la tomate, et ça vous le mangez avec des petites pommes de terre vapeur. Ça n'est pas encore arrivé sur les tables françaises. Je me trompe, chef ?
Alors, moi, j'ai utilisé le poulpe dans cet état-là il y a quelques années. En fait, si vous voulez, le poulpe chez moi est devenu un personnage. En fait, j'ai une cuisine autobiographique que je dessine et dans laquelle je raconte des histoires. Et le poulpe, pour moi, c'était un personnage incroyable parce que c'était un personnage qui était capable de raconter mon histoire. Je suis arrivé à 25 ans dans ce pays de Brière. Mon installation n'a pas été facile et pour moi le poulpe représentait justement ce côté un peu monstrueux et je l'associais souvent à du pigeon par exemple parce que le pigeon c'était moi, c'était l'oiseau qui essayait de s'envoler et ma cuisine à l'époque était très inspirée par l'oiseau qui va se nourrir sur la presqu'île guérandaise et le poulpe venait lui l'attraper et l'entraîner vers les profondeurs et à l'inverse le même poulpe pouvait aussi me libérer, m'apporter le soleil et la lumière, puisqu'il me rappelait mes vacances, il me rappelait des moments de détente au bord de la Méditerranée, que ce soit en Italie ou en Grèce. Et justement, ce même poulpe, je le travaillais à l'époque aussi avec le gibier l'hiver, en mettant le monstre des bois, par exemple le sanglier, en rapport avec le monstre des profondeurs. Et là, je le travaillais autour d'une sauce plutôt civée, retravaillée autour du vin rouge, d'épices comme ça. Et du coup, je l'ai un petit peu, j'ai joué énormément de cartes avec ce produit-là.
Mais alors, c'est tellement devenu un personnage et qui s'identifie à vous, à votre cuisine, à votre parcours, Éric Guérin, que vous avez cessé de le cuisiner il y a quelque temps. Dans le livre que vous avez sous les yeux, qui est votre livre, votre parcours, et qui est émaillé d'un certain nombre de magnifiques recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres, Chemin croisé, qui est votre livre, il reste une seule recette avec le poulpe, parce que vous écrivez « Pendant des années, j'ai travaillé le poulpe dans tous ses états, jouant de sa double image, de monstre, des profondeurs, qui a enlevé le capitaine Nemo, versus mes plus jolis souvenirs de vacances en Méditerranée », ce que vous venez juste de dire. « Aujourd'hui, je le laisse de côté pour des raisons éthiques », écrivez-vous.
Alors moi, j'ai aimé jouer avec le poulpe à l'époque où justement personne ne jouait avec, parce que j'aimais aussi lui donner de véritables lettres de noblesse sur la table gastronomique française. Aujourd'hui, comme on l'a exprimé tout à l'heure, il est devenu un petit peu à la mode. On en voit toutes les sauces, on en voit partout, on en voit beaucoup sur les réseaux
sociaux. Il inspire aussi beaucoup d'artistes, beaucoup de livres, mis un certain nombre sur la page des bonnes choses sur
Netflix. Et on mange beaucoup de mauvais poulpe, il faut aussi le dire, mal préparé, mal cuisiné.
Et en même temps, le poulpe est devenu un personnage public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait des films, on en fait des livres.
Des spectacles.
Et on apprend à le connaître. Et on s'aperçoit aussi que le poulpe, on en a beaucoup parlé aussi, est un animal intelligent, un animal qui est capable d'avoir une certaine mémoire, de reproduire des gestes,
de changer de couleur, réfléchir. On l'appelait le barba papa, donc des mers.
J'étais sous l'eau il y a une semaine en Guadeloupe, en plongée, et j'ai joué avec un poulpe pendant quelques minutes, qui changeait de couleur, qui se posait sur des roches de couleurs différentes.
Capable de reconnaître le plongeur.
Exactement. Et c'est tellement incroyable que, personnellement, j'ai décidé de faire une pause.
Mais on mange bien du porc, qui est très intelligent, à moins que vous n'en mangiez plus. Est-ce que l'intelligence doit être une limite? C'est vraiment une question, hein, une question d'ailleurs passionnante, mais une question assez profonde finalement. À quelle limite peut-on mettre dans l'éthique pour pouvoir manger ou pas un animal? Vous vous dites, c'est parce qu'il est trop intelligent aujourd'hui qu'on découvre cette sensibilité aussi animale que je ne le mange plus.
Non, j'ai dit que je faisais une pause.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Montanet?
Alors, c'est vrai que moi, Hachette m'avait demandé non seulement de mettre des recettes dans ce livre, mais aussi de parler de ce poulpe, donc je m'y étais intéressé, non seulement aux techniques de pêche, à effectivement son CV, son portrait, ses caractéristiques. Et effectivement, j'ai découvert, même si c'était déjà un peu connu à l'époque, que le poulpe était très intelligent. Et au moment où j'écrivais ces lignes pour dire qu'il avait 500 millions de neurones, qu'il était capable de dévisser un bocal qu'il n'avait jamais vu dans son milieu naturel, j'étais en train de me dire, mais à force de raconter qu'il est intelligent, est-ce que derrière, les pages suivantes, on va avoir envie de le plonger dans l'eau et de le cuisiner, de le couper en morceaux? Alors, effectivement, il faut savoir que les chercheurs s'interrogent sur la douleur du poulpe, la conscience de la douleur, parce qu'il ne faut pas non plus, c'est pas Einstein le poulpe, hein, il est plus intelligent, effectivement, de l'intelligence d'un chat, il a 500 millions de neurones, mais l'homme en a 100 milliards, donc il faut aussi relativiser. Mais c'est vrai qu'il a des caractéristiques fascinantes et qu'il fascine les chercheurs, parce que sa forme, sa façon. Vous parliez tout à l'heure de son camouflage, mais il y a des chercheurs américains qui sont en train d'essayer de créer en 3D des matériaux pour reproduire la caractéristique de la peau du poulpe. Les militaires, par exemple, aujourd'hui, ils ont des treillis couleur camouflage, mais dans quelques années, ils auront des treillis qui s'adapteront au milieu naturel. Et ça sera directement né du poulpe. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, s'inspirer de l'animal pour faire de la haute technologie. Mais je pense que moi, ça ne m'empêche pas de le manger, même si il est plutôt malin.
On essaye de faire en sorte de ne pas le faire souffrir, disons, voilà. En le cuisinant, par exemple. Plus aucun chef ne s'amuse à ébouillanter un poulpe encore vivant pour le cuisiner. Non,
ça n'a jamais existé, ça.
Quand même.
Il y en a qui le battaient, puisqu'il faut le battre pour
un poulpe. On va voir ça tout à l'heure. On laisse passer la rubrique de Matteo Caranta aujourd'hui, les confidences de confiné. On se retrouve après pour savoir comment on le cuisine, ce poulpe.
Si certains souffrent de maux de tête ou de migraines diverses, qu'ils fassent l'expérience suivante. Alors, vous mettez un poulpe sur la tête et vous avalez deux aspirines et vous verrez le résultat est tout à fait stupéfiant. Alors que si vous faites le contraire, le résultat est nul.
Bon, il n'y en avait qu'un pour faire ça. C'était évidemment Pierre Desproges, hein, avec son sketch sur le poulpe sur la tête. Bon, c'est l'heure des confidences de confinés avec Matteo Caranta qui va regarder ce qui se passe derrière les rideaux tirés des restaurants. Aujourd'hui, il est allé à la rencontre d'une jeune chef, Manon Fleury, et qu'il est allé voir alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir un restaurant quand le confinement l'en a empêché. Elle a choisi de participer à un très beau projet de l'agence Fulgurance associée au cinéma parisien L'Entrepôt, un projet qui s'appelle Le Goût du Cinéma. En fait, c'est un cycle d'événements autour de la gastronomie et du cinéma, lancé avant le deuxième confinement et qu'ils ont prolongé en version maison. L'idée, c'est de livrer un menu inspiré d'un film choisi par le ou la chef, en l'occurrence la chef Manon Fleury, qu'on regarde à la maison en même temps, puisque le lien est aussi envoyé. Ça devrait peut-être vous inspirer, vous devriez vous Éric Guérin, contactez Fulgurance, à moins qu'ils nous entendent, L'Entrepôt, pour pouvoir vous le proposer. Manon Fleury, donc, s'est tournée vers la Méditerranée.
Moi, j'adore le cinéma, ça me parle beaucoup. Quand je suis pas bien et que j'ai envie de m'enrichir, je vais au cinéma. Malheureusement, ça peut pas se faire en ce moment, mais voilà, moi, c'est un art que j'aime beaucoup. Et alors, pouvoir faire un menu en accord avec un film, c'était pour moi génial.
Tout me fait girer, tout me fait girer, comme fosse una bambola.
Alors, j'ai choisi un film qui s'appelle Respiro, qui est un film italien, qui se passe sur une île à Lampedusa, en Italie. En fait, je l'ai choisi à ce moment-là parce que on était au mois de janvier, qu'il faisait gris à Paris. J'avais envie de soleil, j'adore la Méditerranée. J'avais envie de soleil, j'avais envie de ciel bleu. Et en fait, le seul souvenir que j'avais de ce film-là, c'était ça. Je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, je vais aller revoir ce film. Et en revoyant ce film, je me suis dit, c'est drôle parce qu'en fait, il est jonché de scènes autour de poissons parce qu'en fait, la famille dont on parle est une famille de pêcheurs. Et comme beaucoup de films italiens, il y a beaucoup de scènes autour de repas. Et je me suis dit que c'était le film parfait pour pouvoir faire cet événement.
Quando
Et donc en fait, j'ai essayé de vraiment me servir des scènes pour et à chaque fois qu'en fait je regardais le film, je voyais une scène et je faisais un plat qui était en écho avec la scène du film. Alors il y a une scène où les enfants qui sont géniaux et qui ont des caractères assez géniaux et qui se retrouvent sur le bateau de pêcheurs avec leur père. Et on voit qu'ils jouent à l'arrière du bateau et on les voit à l'arrière du bateau avec des algues. Donc ça fait un peu une espèce de scène avec le ciel bleu, les algues, il y a plein de poissons. Et l'un des enfants se met à énumérer les noms des poissons qu'il y a sur le bateau. Et notamment, donc il dit de la dorade, etc. Et notamment du poulpe et du calamar. Et en fait là, je me suis dit, ah ouais, mais la profusion, ça me donne envie de faire un ragoût. Et en fait, j'ai fait un ragoût de poulpe et de calamar qui avait quelque chose d'assez carnassier. Mais voilà, le poulpe a un côté carnassier, un peu tripe. Et en fait, franchement, quand on les mangeait, on a l'impression de manger un peu des tripes à la romaine. Donc transformer le poulpe en tripe, c'est assez intéressant.
Transformer le poulpe en tripe, ce côté carnassier donc vous parle, Éric Guérin, vous qui le mélangiez avec du pigeon quand vous en faisiez.
J'ai même fait des tripes et du poulpe ensemble.
Alors c'est
à
dire.
Une période. Mais c'est vrai qu'en plus le poulpe avec son bec extrêmement puissant, du coup qu'il a le rapproche fortement des oiseaux, est capable de percer des coquillages, de faire des choses extraordinaires.
Pourquoi vous tournez vers Jean-Pierre Montanet?
C'est lui l'expert.
La parole à Jean-Pierre Montanet, n'est-ce
vrai,
pas
c'est vrai qu'il a un bec qu'il faut enlever quand on nettoie le poulpe.
On mange pas tout dans le poulpe.
Moi, on était d'accord avec Eric, nous on mange que les tentacules, il y a cette poche, cette tête-là. Certains en font des courbouillons, d'autres dans le sud les farcissent. Moi, je suis pas très fan, je me concentre sur les tentacules.
Moi aussi.
Bon, alors voilà. Déjà, mangeons les tentacules, mais il faut quand même commencer par le trouver, quelque part. Quand on veut le cuisiner à la maison, par exemple, il faut quand même rapporter une pieuvre à la maison, trouver une casserole assez grosse. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a à la maison, Jean-Pierre Montanet?
Alors, soit vous l'achetez frais, et c'est vrai que sur les marchés à Paris, notamment, c'est pas facile, hein, on en trouve beaucoup plus. Si vous allez à Naples ou à Barcelone...
C'est quand même avant tout un animal de la mer Méditerranée.
Oui, alors, vulgaris, il se pêche en Atlantique Nord, hein, les gros poulpes,
ils sont
souvent large de la Mauritanie, du Sénégal ou du Maroc, mais on en trouve en Méditerranée. Les puristes disent que c'est des poulpes de roche parce qu'ils sont dans les rochers, mais en Méditerranée. Et tout à l'heure, je reviens sur le côté éthique d'Éric, hein. Moi, pour cette émission, j'ai passé un coup de fil à l'Ifremer. C'est vrai que la surpêche menace le poulpe, notamment au large de la Mauritanie, etc. En Méditerranée, la côte d'alerte n'est pas atteinte. Toutes les espèces souffrent de surpêche. Autant on peut mesurer les bancs de thon, on arrive, mais c'est difficile de mesurer la quantité de poulpes parce que le poulpe est solitaire, il vit dans des petites cabanes. On n'arrive pas, même avec des sonars, même avec des photos satellites, de voir s'il y a beaucoup de stock encore. Et ça se reproduit, il y a 500 000 œufs et il y a une grosse déperdition, ça dépend aussi de l'environnement. Si vous perdez 4/5 des œufs ou 3/5, c'est pas la même histoire.
Alors revenons à la maison chez le poissonnier.
Vous avez raison, hein, Caroline, vous amenez un monstre à la maison. Moi, je trouve que, ce que je disais avec Eric, plus ils sont gros, meilleurs ils sont. Donc il faut essayer de trouver des poulpes de 3 à 4 kilos. Et c'est vraiment une bestiole qui est gélatineuse, qui est encore visqueuse, avec des morceaux de d'algues dans les ventouses. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est le mettre dans un évier, c'est le couvrir de gros sel et laisser reposer comme ça. Il va dégorger un petit peu. Vous enlevez avec une brosse à dents, vous nettoyez ventouse par ventouse pour bien nettoyer. Et là, il faut l'aimer, le poulpe, hein, parce qu'il faut se l'approprier, il faut le masser, le rincer, et ensuite, il va perdre de sa viscosité, il va devenir un peu mat, et là, vous le séchez bien, puis vous le mettez au congélateur pendant au moins 48 heures pour casser ses fibres, qui permettront de faire un poulpe un peu plus comestible et moins dur. Plus il est gros, moins il est dur, moins les fibres sont nerveuses, et après, vous pouvez le cuisiner, puis Eric nous donnera des idées.
Éric Guérin, il faut l'attendrir, parce qu'il a beaucoup de nerfs. En Tunisie, on le bat, au Japon, on le masse, avec des radis, et donc Jean-Pierre Montanet, il le met au congélateur.
Oui. Je pense que, alors moi c'est la même chose, hein, le poulpe, je pense effectivement qu'il faut l'aimer, et c'est justement là où c'est difficile à la maison, parce qu'on a cette espèce de monstre dans les mains, on n'ose pas le toucher, c'est gélatineux, visqueux, c'est un peu comme l'anguille, hein. On sait pas le travailler, parce que c'est pas forcément dans notre culture, et en plus on n'en trouve pas forcément, donc on en voit sur l'étal, on dit tiens, je vais le prendre, je vais essayer, et après une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on fait? Donc
c'est un défi technique, hein, ouais. De cuisiner en plus.
Moi c'est vrai que en plus je suis dans le pays du sel, donc j'aime bien le frotter au sel de Guérande, au gros sel gris, hein, pas à la fleur de sel. On le frotte bien, on le nettoie bien, on le rince, on le fait sécher, et ensuite je fais la même chose, je le mets au congélateur, minimum 24 heures, et en le sortant du congélateur, attention surtout, on le met pas au micro-ondes. sinon il rétrécit, il devient tout dur. On le laisse décongeler tranquillement. Et après, on peut commencer à le cuire.
Et alors
il y a
fait avec
la
ça.
Façon la plus facile à la maison, c'est le courbouillon. On fait un bon courbouillon bien assaisonné et on le met en cuisson. En fonction de la taille du poulpe, on peut compter à peu près une trentaine de minutes jusqu'à 45 minutes à peu près. Ça se cuit un peu comme une pomme de terre. Hein. On peut avec la pointe du couteau vérifier. Moi, je conseille de le garder al dente parce que trop cuit, il va perdre ses tentacules et c'est dommage.
Il va perdre ses ventouses.
Ses ventouses,
oui.
Pardon.
Oui. Il va perdre les ventouses. Il y a une fibre et au-dessus, il y a de la chitine qui est un peu gélatineuse. Si on le fait trop cuire, tout ça disparaît avec la cuisson. Il y a quelques chefs pour ne pas épouvanter ou quelques restaurateurs pour ne pas épouvanter leurs clients qui les font volontairement trop cuire et qui débarrassent toute cette gélatine, cette ventouse et qui ne garde que les fibres. Mais alors là, on a affaire, on dirait une chair de poulet un peu fibreuse.
Oui, c'est ça.
Qui n'a pas d'intérêt, si ce n'est qu'effectivement, si on y met du thym et de la bonne huile d'olive, ça a du goût. Mais il faut qu'il y ait ce côté de la mer. Ces ventouses, ça fait partie du poulpe. Si on n'aime pas les ventouses et qu'on est effrayé par les ventouses, on oublie le poulpe et on va manger de la purée mousseline.
Hein.
Mais c'est vrai que le poulpe, je pense que la meilleure interprétation, c'est quand on arrive à conserver vraiment la gélatine autour, le jeu de chaque ventouse, et à l'intérieur, il faut de la texture et il faut encore un petit peu de mâche.
Alors, parlez-nous de cette recette qui est la seule sauvée dans votre chemin croisé, le livre de votre parcours et de vos recettes, Éric Guérin. Vous avez donc sauvé la pieuvre de l'Atlantique, que vous associez non pas au pigeon dans votre ouvrage, mais à la betterave, à la rhubarbe. Et alors, gouel, à vrai dire, je vous avoue, je ne sais même pas ce qu'est le d'ailleurs. Gouel.
Le gouel. Ça, c'est une recette emblématique de Bretagne. C'est un genre de lait fermenté un petit peu, vous voyez, mais il n'y a plus beaucoup de producteurs, c'est quelque chose de très vivant, c'est un peu comme le levain naturel pour le pain, et on ensemence les fromages avec, mais bon, là, il faudrait faire une émission complète sur le gouel si tu commences à rentrer là-dedans, parce que c'est un de mes produits fétiches aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est vrai que je l'ai appelé pieuvre de l'Atlantique parce que justement, j'ai essayé de jouer avec, un petit poulpe blanc qui s'appelle Elédon, qui est pêché aussi chez nous en Atlantique, que j'ai découvert en allant à la criée du Croisic le matin, et finalement qui reste là parce que personne n'en veut. Et ce petit poulpe-là, il a la particularité d'avoir qu'une seule rangée de ventouses sur ses tentacules, et il est un peu plus ferme que les autres, et nettement moins goûté, moins sucré. Et c'est pour ça que j'ai voulu le travailler sur le côté végétal. J'ai voulu le travailler avec la betterave, qui a ce côté plutôt très terrien. Je l'ai travaillé avec la rhubarbe, parce que la rhubarbe va justement lui apporter le sucre, va lui apporter la lumière de l'été. Et j'ai travaillé sur ce côté très fraîcheur, parce que le poulpe, on peut le travailler soit sur son côté très caramélisé, très sucré, qui nous amène vraiment sur des notes un peu de viande, soit vraiment dans la fraîcheur, sur ce côté salade, carpaccio, qu'on connaît beaucoup et qu'on utilise.
Et qu'on retrouve dans toutes les recettes nombreuses du livre, cette fois de Jean-Pierre Montanet, de la salade de poulpe au fenouil, à la daube. C'est vous qui avez la daube, en fait. Oui. La daube de poulpe au chocolat.
C'est Michel Portos à Marseille qui m'avait donné cette recette.
En passant par les calamars sautés au basilic thaï et au piment, puis bon, beaucoup d'autres, mais votre recette préférée, on en terminera avec ça, Jean-Pierre Montanet. Votre recette préférée, c'est toujours le poulpe à la galéga?
Oui, parce que je trouve que c'est très basique. Hein. C'est juste un lit de pommes de terre. C'est ce qu'on mange dans les bars à tapas en Espagne, à La Corogne ou même à Barcelone. C'est juste un lit de pommes de terre, du poulpe qui a été cuit au courbouillon, coupé en lamelles, un peu d'huile d'olive et puis du pimenton fumé. Et on mange ça dans des petites assiettes en bois sur les bars espagnols. Et le poulpe est sublimé par la pomme de terre est sublimée par le poulpe et par l'huile d'olive. Et pour moi, je ferai des kilomètres pour aller manger un bon poulpe à la gallega.
J'adhère complètement.
Eh bien,
à quatre pattes,
bon appétit à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Pierre Montanet et Éric Guérin, d'être venus nous parler du poulpe. Le poulpe, donc, c'est chez Hachette Pratique, c'est votre livre. On les voit, pour ceux qui regardent la chaîne YouTube du Théâtre de la Ville, ils sont filmés sur la table, nous les avons posés à côté de nous. Éric Guérin, Chemin croisé chez Ulmer, avec les magnifiques photos d'Erwan Balança, c'est votre livre. Et je signale Le poulpe, 10 façons de le préparer, de Anne Hétor, qui a un livre paru chez Épure en 2018, et puis une foule multitude de références aussi bien artistiques que culinaires que Roxane Poulain a pris soin de mettre sur la page de l'émission. Un grand merci.
Merci Caroline.
Merci.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec l'équipe Roxane Poulin, Stéphanie Villeneuve, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et nos techniciens et techniciennes du jour, Stéphane Foulon, Alexandre James, Martin Troadec, l'équipe de production, Franck Malabry, Francesca Fossati, Wojciech Noiret. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture dans un instant. Ce sera le journal suivi de Signes des Temps en direct ici même de l'espace Cardin à Paris par Marc Weitzman. Mais tout de suite, enfin plutôt dans quelques secondes, ce sera le journal de France Culture.